Alphonse Daudet. Le nabab. Avant-propos. Il y a 100 ans, le sage écrivait ceci en tête de Gil Blas. Comme il y a des personnes qui ne sauraient lire sans faire des applications des caractères vicieux ou ridicules qu'elles trouvent dans les ouvrages, je déclare à ces lecteurs malins qu'ils auraient tort d'appliquer les portraits qui sont dans le présent livre. J'en fais un aveu public, je ne me suis proposé que de représenter la vie des hommes telle qu'elle est. Toute distance gardée entre le roman de Le Sage et le mien, c'est une déclaration du même genre que j'aurais désiré mettre à la première page du Nabab, dès sa publication. Plusieurs raisons m'en ont empêché. D'abord la peur qu'un pareil avertissement n'eût trop l'air d'être jeté en appât au public et de vouloir forcer son attention. Puis, j'étais loin de me douter qu'un livre écrit avec des préoccupations purement littéraires pût acquérir ainsi tout d'un coup cette importance anecdotique et me valoir une telle nuée bourdonnante de réclamations. Jamais en effet rien de semblable ne s'est vu. Pas une ligne de mon œuvre, pas un de ses héros, pas même un personnage en silhouette qui ne soit devenu motif à allusion, à protestation. L'auteur a beau se défendre, jurer ses grands dieux que son roman n'a pas de clé, chacun lui en forge au moins une, à l'aide de laquelle il prétend ouvrir cette serrure à combinaison. Il faut que tous ces types aient vécu, comment donc, qu'ils vivent encore, identiques de la tête aux pieds. Mon pavon est un tel, n'est-ce pas? La ressemblance de Jenkins est frappante. Celui-ci se fâche d'en être, tel autre de n'en être pas. Et cette recherche du scandale aidant, il n'est pas jusqu'à des rencontres de noms, fatales dans le roman moderne, des indications de rue, des numéros de maisons choisis au hasard, qui n'aient servi à donner une sorte d'identité à des êtres bâtis de 1000 pièces et en définitive absolument imaginaires. L'auteur a trop de modestie pour prendre tout ce bruit à son compte. Il sait la part qu'ont eue dans cela les indiscrétions amicales ou perfides des journaux, et, sans remercier les uns plus qu'il ne convient, sans en vouloir aux autres outre mesure, il se résigne à sa tapageuse aventure comme à une chose inévitable, et tient seulement à honneur d'affirmer, sur 20 ans de travail et de probité littéraire, que cette fois pas plus que les autres, il n'avait cherché cet élément de succès. En feuilletant ses souvenirs, ce qui est le droit et le devoir de tout romancier, il s'est rappelé un singulier épisode du Paris cosmopolite d'il y a 15 ans. Le romanesque d'une existence éblouissante et rapide, traversant en météore le ciel parisien, a évidemment servi de cadre au Nabab, à cette peinture des mœurs de la fin du Second Empire. Mais autour d'une situation, d'aventure connue que chacun était en droit d'étudier et de rappeler, quelle fantaisie répandue, que d'inventions, que de broderies, surtout quelle dépense de cette observation continuelle éparse presque inconsciente, sans laquelle il ne saurait y avoir d'écrivain d'imagination. D'ailleurs, pour se rendre compte du travail cristallisant qui transporte du réel à la fiction, de la vie au roman, les circonstances les plus simples, il suffirait d'ouvrir le Moniteur officiel de février 1864 et de comparer certaines séances du corps législatif au tableau que j'en donne dans mon livre. Qui aurait pu supposer qu'après tant d'années écoulées, ce Paris à la courte mémoire saurait reconnaître le modèle primitif dans l'idéalisation que le romancier en a faite, et qu'il s'élèverait des voix pour accuser d'ingratitude celui qui ne fut point certes le commensal assidu de son héros, mais seulement, dans leur rare rencontre, un curieux en qui la vérité se photographie rapidement et qui ne peut jamais effacer de son souvenir les images une fois fixées. J'ai connu le vrai Nabab en 1864. J'occupais alors une position semi-officielle qui m'obligeait à mettre une grande réserve dans mes visites à ce fastueux et accueillant levantin. Plus tard, je fus liée avec un de ses frères. Mais à ce moment-là, le pauvre Nabab se débattait au loin dans des buissons d'épines cruels, et l'on ne le voyait plus à Paris que rarement. Du reste, il est bien gênant pour un galant homme de compter ainsi avec les morts et de dire « Vous vous trompez, bien que ce fût un hôte aimable, on ne m'a pas souvent vu chez lui ». Qu'il me suffise donc de déclarer qu'en parlant du fils de la mère Françoise comme je l'ai fait, j'ai voulu le rendre sympathique et que le reproche d'ingratitude me paraît de toute façon une absurdité. Cela est si vrai que bien des gens trouvent le portrait trop flatté, plus intéressant que nature. À ces gens-là, ma réponse est fort simple. Jean Soulet m'a fait l'effet d'un brave homme, mais en tout cas, si je me trompe, prenez-vous-en aux journaux qui vous ont dit son vrai nom. Moi, je vous ai livré mon roman comme un roman, mauvais ou bon, sans ressemblance garantie. Quant à Mora, c'est autre chose. On a parlé d'indiscrétion, de défection politique. Mon Dieu, je ne m'en suis jamais cachée. J'ai été, à l'âge de 20 ans, attachée au cabinet du haut fonctionnaire qui m'a servi de type, et mes amis de ce temps-là savent quel grave personnage politique je faisais. L'administration, elle aussi, a dû garder un singulier souvenir de ce fantastique employé à crinière mérovingienne, toujours le dernier venu au bureau, le premier parti, et ne montrant jamais chez le duc que pour lui demander des congés, avec cela d'un naturel indépendant, les mains nettes de toute quantité, et si peu inféodé à l'Empire que le jour où le duc lui offrit d'entrer à son cabinet, le futur attaché crut devoir déclarer avec une solennité juvénile et touchante qu'il était légitimiste. « L'impératrice l'est aussi, répondit l'Excellence, en souriant d'un grand air impertinent et tranquille. C'est avec ce sourire-là que je l'ai toujours vue, sans avoir besoin pour cela de regarder par le trou des serrures, et c'est ainsi que je l'ai peint, tel qu'il aimait à se montrer, dans son attitude de Richelieu Brummel. L'histoire s'occupera de l'homme d'État. Moi, j'ai fait voir, en le mêlant de fort loin à la fiction de mon drame, le mondain qu'il était, et qu'il voulait être, assuré d'ailleurs que de son vivant, il ne lui eût point déplu d'être présenté ainsi. » Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant ces déclarations faites, en toute franchise, retournons bien vite au travail. On trouvera ma préface un peu courte, et les curieux y auront en vain cherché le piment attendu. Tant pis pour eux. Si brève que soit cette page, elle est pour moi trois fois trop longue. Les préfaces ont cela de mauvais surtout, qu'elles vous empêchent d'écrire des livres. Alphonse Daudet. Chapitre 1. Les malades du docteur Jenkins. Debout sur le perron de son petit hôtel de la rue de Lisbonne, rasé de frais, l'œil brillant, la lèvre entr'ouverte d'aise, ses longs cheveux vaguement grisonnants et pendus sur un vaste collet d'habits, carré d'épaules, robuste et sain comme un chêne, l'illustre docteur irlandais Robert Jenkins, chevalier du Médicé et de l'ordre distingué de Charles III d'Espagne, membre de plusieurs sociétés savantes ou bienfaisantes, président fondateur de l'œuvre de Bethléem, Jenkins enfin, le Jenkins des perles Jenkins à base arsenicale, c'est-à-dire le médecin à la mode de l'année 1864, l'homme le plus occupé de Paris, s'apprêtait à monter en voiture un matin de la fin de novembre quand une croisée s'ouvrit au premier étage sur la cour intérieure de l'hôtel et une voix de femme demanda timidement « Rentrerez-vous déjeuner, Robert ?» Oh, de quel bon et loyal sourire s'éclaira tout à coup cette belle tête de savant et d'apôtre, et dans le tendre bonjour que ses yeux envoyèrent là-haut vers le chaud peignoir blanc entrevu derrière les tentures soulevées, comme on devinait bien une de ces passions conjugales, tranquilles et sûres, que l'habitude resserre de toute la souplesse et la solidité de ses liens. « Non, Madame Jenkins !» Il aimait à lui donner ainsi publiquement son titre d'épouse légitime, comme s'il eût trouvé là une intime satisfaction, une sorte d'acquis de conscience envers la femme qui lui rendait la vie si riante. « Non, ne m'attendez pas ce matin. Je déjeune place Vendôme. »« Ah oui, le nabab !» dit la belle Madame Jenkins, avec une nuance très marquée de respect pour ce personnage des mille et une nuits dont tout Paris parlait depuis un mois. Puis, après un peu d'hésitation, bien tendrement, tout bas, entre les lourdes tapisseries, elle chuchota rien que pour le docteur. « Surtout, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis !» C'était vraisemblablement quelque chose de bien difficile à tenir, car au rappel de cette promesse, les sourcils de l'apôtre se froncèrent, son sourire se pétrifia, toute sa figure prit une expression d'incroyable dureté, mais ce fut l'affaire d'un instant. Au chevet de leur riche malade, ces physionomies de médecins à la mode deviennent expertes à mentir. Avec son air le plus tendre, le plus cordial, il répondit en montrant une rangée de dents éblouissantes. « Ce que j'ai promis sera fait, Madame Jenkins. Maintenant rentrez vite et fermez votre croisée. Le brouillard est froid ce matin. » Oui, le brouillard était froid, mais blanc comme de la vapeur de neige, et étendu derrière les glaces du grand coupé, il égayait de reflets doux le journal déplié dans les mains du docteur. Là-bas, Dans les quartiers populeux, resserrés et noirs, dans le Paris commerçant et ouvrier, on ne connaît pas cette brume matinale qui s'attarde aux grandes avenues. De bonne heure, l'activité du réveil, le va-et-vient des voitures maraîchères, des omnibus, des lourds camions secouant leurs ferrailles, l'ont vite haché, effiloqué, éparpillé. Chaque passant en emporte un peu dans un paletot râpé, un cache-nez qui montre la trame, des gants grossiers, frottés l'un contre l'autre. Elle imbibe les blouses frissonnantes, les waterproofs jetés sur les jupes de travail. Elle se fond à toutes les haleines, chaudes d'insomnie ou d'alcool, s'engouffre au fond des estomacs vides, se répand dans les boutiques qu'on ouvre, les cours noirs, le long des escaliers dont elle inonde la rampe et les murs, jusque dans les mansardes sans feu. Voilà pourquoi il en reste si peu dehors. Mais dans cette portion de Paris espacée et grandiose, où demeurait la clientèle de Jenkins, sur ces larges boulevards plantés d'arbres, ces quais déserts, le brouillard planait immaculé, en nappes nombreuses, avec des légèretés et des floconnements d'ouates. C'était fermé, discret, presque luxueux, parce que le soleil, derrière cette paresse de son lever, commençait à répandre des teintes doucement pourprées, qui donnaient à la brume enveloppant jusqu'au faîte les hôtels alignés, l'aspect d'une mousseline blanche jetée sur des étoffes écarlates. On aurait dit un grand rideau, abritant le sommeil tardif et léger de la fortune, épais rideau où rien ne s'entendait que le battement discret d'une porte cochère, les mesures en fer blanc des laitiers, les grelots d'un troupeau d'ânesses passant au grand trot, suivis du souffle court et haletant de leurs bergers, et le roulement sourd du coupé de Jenkins commençant sa tournée de chaque jour. D'abord à l'hôtel de Mora. C'était, sur le quai d'Orsay, tout à côté de l'ambassade d'Espagne, dont les longues terrasses faisaient suite aux siennes, un magnifique palais ayant son entrée principale rue de Lille et une porte sur le bord de l'eau. Entre deux hautes murailles revêtues de lierre, reliées entre elles par d'imposants arcs de voûte, le coupé fila comme une flèche, annoncé par deux coups d'un timbre retentissant qui tirèrent Jenkins de l'extase où la lecture de son journal semblait l'avoir plongé. Puis les roues amortirent leur bruit sur le sable d'une vaste cour et s'arrêtèrent, après un élégant circuit, contre le perron de l'hôtel, surmonté d'une large marquise en rotonde. Dans la confusion du brouillard, on apercevait une dizaine de voitures en ligne, et le long d'une avenue d'acacia, tout sec en cette saison et nue dans leur écorce, les silhouettes de palefreniers anglais promenant à la main les chevaux de selle du duc. Tout révélait un luxe ordonné, reposé, grandiose et sûr. « J'ai beau venir matin, d'autres arrivent toujours avant moi », se dit Jenkins, en voyant la file où son coupé prenait place. Mais, certain de ne pas attendre, il gravit, la tête haute, d'un air d'autorité tranquille, ce perron officiel que franchissait chaque jour tant d'ambitions frémissantes, d'inquiétudes aux pieds trébuchants. Dès l'antichambre, élevée et sonore comme une église, et que deux grands feux de bois, en dépit des calorifères brûlant nuit et jour, emplissaient d'une vie rayonnante, le luxe de cet intérieur arrivait par bouffées tièdes et capiteuses. Cela tenait à la fois de la serre et de l'étuve. Beaucoup de chaleur dans de la clarté, des boiseries blanches, des marbres blancs, des fenêtres immenses, rien d'étouffé ni d'enfermé, et pourtant une atmosphère égale faite pour entourer quelque existence rare, affinée et nerveuse. Jenkins s'épanouissait à ce soleil factice de la richesse. Il saluait d'un « Bonjour mes enfants !» le Suisse poudré, au large baudrier d'or, les valets de pied en culottes courtes, livrées or et bleu, tous debout pour lui faire honneur, effleurait du doigt la grande cage des Ouistiti, pleine de cris aigus et de cabrioles, et s'élançait en sifflotant sur l'escalier de marbre clair, rembourré d'un tapis épais comme une pelouse, conduisant aux appartements du duc. Depuis 6 mois qu'il venait à l'hôtel de Mora, le bon docteur ne s'était pas encore blasé sur l'impression toute physique de gaieté, de légèreté que lui causait l'air de cette maison. Quoi qu'on fût chez le premier fonctionnaire de l'Empire, rien ne sentait ici l'administration ni ses cartons de paperasse poudreuse. Le duc n'avait consenti à accepter ses hautes dignités de ministre d'État, président du Conseil, qu'à la condition de ne pas quitter son hôtel. Il n'allait au ministère qu'une heure ou deux par jour, le temps de donner les signatures indispensables, et tenait ses audiences dans sa chambre à coucher. En ce moment, malgré l'heure matinale, le salon était plein. On voyait là des figures graves, anxieuses, des préfets de province aux lèvres rases, aux favoris administratifs, un peu moins arrogants dans cette antichambre que là-bas, dans leur préfecture. Des magistrats, l'air austère, sobre de gestes, des députés aux allures importantes, gros bonnets de la finance, usiniers cossus et rustiques, parmi lesquels se détachait çà et là la grêle tournure ambitieuse d'un substitut ou d'un conseiller de préfecture en tenue de solliciteur, habit noir et cravate blanche. Et tous, debout, assis, groupés ou solitaires, crochetaient silencieusement du regard cette haute porte fermée sur leur destin, par laquelle ils sortiraient tout à l'heure, triomphants ou la tête basse. Jenkins traversa la foule rapidement, et chacun suivait d'un œil d'envie ce nouveau venu que l'huissier à chaîne, correct et glacial, assis devant une table à côté de la porte, accueillait d'un petit sourire à la fois respectueux et familier. « Avec qui est-il ?» demanda le docteur en montrant la chambre du duc. Du bout des lèvres, non sans un frisement d'œil légèrement ironique, l'huissier murmura un nom qui, s'il l'avait entendu, aurait indigné tous ces hauts personnages attendant depuis une heure que le costumier de l'opéra eût terminé son audience. Un bruit de voix, un jet de lumière, Jenkins venait d'entrer chez le duc. Il n'attendait jamais, lui. Debout, le dos à la cheminée, serré dans une veste en fourrure bleue dont les douceurs de reflets affinaient une tête énergique et hautaine, le président du conseil faisait dessiner sous ses yeux un costume de pierrette que la duchesse porterait à son prochain bal et donnait ses indications avec la même gravité que s'il eût dicté un projet de loi. « Ruchez la fraise très fin et ne ruchez pas les manchettes. Bonjour Jenkins, je suis à vous. » Jenkins s'inclina et fit quelques pas dans l'immense chambre dont les croisées, ouvrant sur un jardin qui allait jusqu'à la Seine, encadraient un des plus beaux aspects de Paris, les ponts, les Tuileries, le Louvre, dans un entrelacement d'arbres noirs comme tracés à l'encre de Chine sur le fond flottant du brouillard. Un large lit très bas, élevé de quelques marches, deux ou trois petits paravents de lac aux vagues et capricieuses dorures, indiquant ainsi que les doubles portes et les tapis de haute laine, la crainte du froid poussé jusqu'à l'excès, des sièges divers, chaises longues, chauffeuses, répandues un peu au hasard, tout bas, arrondis, de forme indolente ou voluptueuse, composaient l'ameublement de cette chambre célèbre, où se traitaient les plus graves questions, et aussi les plus légères, avec le même sérieux d'intonation. Au mur, un beau portrait de la duchesse. Sur la cheminée, un buste du duc, œuvre de Félicia Ruiz, qui avait eu au récent salon les honneurs d'une première médaille. « Eh bien, Jenkins, comment ça va ce matin ?» dit l'excellence en s'approchant, pendant que le costumier ramassait ses dessins de mode épars sur tous les fauteuils. « Et vous, mon cher duc, je vous ai trouvé un peu pâle hier soir aux variétés. Allons donc, je ne me suis jamais si bien portée. Vos perles me font un effet du diable, je me sens une vivacité, une verdeur, quand je pense comme j'étais fourbue il y a 6 mois. » Jenkins, sans rien dire, avait appuyé sa grosse tête sur la fourrure du ministre d'État, à l'endroit où le cœur bat chez le commun des hommes. Il écouta un moment pendant que l'excellence continuait à parler sur le ton indolent, excédé, qui faisait un des caractères de sa distinction. « Avec qui étiez-vous donc, docteur, hier soir, ce grand tartare bronzé qui riait si fort sur le devant de votre avant-scène ?»« C'était le nabab, monsieur le duc, ce fameux Jean Soulet dont il est en question en ce moment. »« J'aurais dû m'en douter. Toute la salle le regardait. Les actrices ne jouaient que pour lui. Vous le connaissez ? Quel homme est-ce ? » »« Je le connais, c'est-à-dire je le soigne. Merci, mon cher duc, j'ai fini. Tout va bien par là. » En arrivant à Paris il y a 1 mois, le changement de climat l'avait un peu éprouvé. Il m'a fait appeler et depuis il m'a pris en grande amitié. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a une fortune colossale, gagnée à Tunis au service du Bey. Un cœur loyal, une âme généreuse, où les idées d'humanité à Tunis, interrompit le duc fort peu sentimental et peu humanitaire de sa nature. Alors pourquoi ce nom de nabab ? Bah, les Parisiens n'y regardent pas de si près. Pour eux, tout riche étranger est un nabab, n'importe d'où ils viennent. Celui-ci, du reste, a bien le physique de l'emploi. Un teint cuivré, des yeux de braise ardente, de plus une fortune gigantesque, dont il fait, je ne crains pas de le dire, l'usage le plus noble et le plus intelligent. C'est à lui que je dois, ici le docteur prit un air modeste, que je dois d'avoir enfin pu constituer l'œuvre de Bethléem pour l'allaitement des enfants, qu'un journal du matin que je parcourais tout à l'heure, le messager, je crois, appelle la grande pensée philanthropique du siècle. » Le duc jeta un regard distrait sur la feuille que Jenkins lui tendait. Ce n'était pas celui-là qu'on prenait avec des phrases de réclame. « Il faut qu'il soit très riche, ce monsieur Jean Soulet, » dit-il froidement. « Il commandite le théâtre de Cardaillac ? Mon pavon lui fait payer ses dettes, Boileri lui monte une écurie, le vieux Swalbach une galerie de tableaux. C'est de l'argent, tout cela. » Jenkins se mit à rire. « Que voulez-vous, mon cher duc? Vous le préoccupez beaucoup, ce pauvre nabab. Arrivant ici avec la ferme volonté de devenir parisien, homme du monde, il vous a pris pour modèle en tout, et je ne vous cache pas qu'il voudrait bien étudier son modèle de plus près. » « Je sais, je sais. Mon pavon m'a déjà demandé de me l'amener. Mais je veux attendre, je veux voir. Avec ces grandes fortunes qui viennent de si loin, il faut se garder. Mon Dieu, je ne dis pas si je le rencontrais ailleurs que chez moi, au théâtre, dans un salon. » « Justement, Madame Jenkins compte donner une petite fête le mois prochain, si vous vouliez nous faire l'honneur. J'irai très volontiers chez vous, mon cher docteur. » Et dans le cas où votre nabab serait là, je ne m'opposerai pas à ce qu'il me fût présenté. » À ce moment, l'huissier de service entr'ouvrit la porte. « Monsieur le ministre de l'Intérieur est dans le salon bleu. Il n'a qu'un mot à dire à son excellence. Monsieur le préfet de police attend toujours en bas dans la galerie. » « C'est bien, dit le duc, j'y vais. Mais je voudrais en finir avant avec ce costume. Voyons, père chose, qu'est-ce que nous décidons pour ces ruches? Au revoir, docteur. Rien à faire, n'est-ce pas, que continuer les perles ?»« Continuer les perles, » dit Jenkins en saluant, et il sortit tout radieux de deux bonnes fortunes qui lui arrivaient en même temps, l'honneur de recevoir le duc et le plaisir d'obliger son cher nabab. Dans l'antichambre, la foule des solliciteurs qu'il traversa était encore plus nombreuse qu'à son entrée, de nouveaux venus s'étant joints aux patients de la première heure, d'autres montaient l'escalier, affairés et tout pâles, et dans la cour, les voitures continuaient à arriver, à se ranger en cercle sur deux rangs, gravement, solennellement, pendant que la question des ruches aux manchettes se discutait là-haut avec non moins de solennité. « Au cercle !» dit Jenkins à son cocher. Le coupé roula le long des quais, repassa les ponts, gagna la place de la Concorde, qui n'avait déjà plus le même aspect que tout à l'heure. Le brouillard s'écartait vers le garde-meuble, et le temple grec de la Madeleine, laissant deviner çà et là les grettes blanches d'un jet d'eau, l'arcade d'un palais, le haut d'une statue, les massifs des Tuileries groupés frileusement près des grilles. Le voile non soulevé mais déchiré par places découvrait des fragments d'horizon, et l'on voyait sur l'avenue menant à l'Arc de Triomphe des breaks passés au grand trot, chargés de cochers et de maquignons, des dragons de l'impératrice, des guides chamarrés et couverts de fourrures s'en allaient deux par deux en longue file, avec un cliquetis de morses, d'éperons, des ébrouements de chevaux frais, tout cela s'éclairant d'un soleil encore invisible, sortant du vague de l'air et rentrant par masse, comme une vision rapide du luxe matinal de ce quartier. Jenkins descendit à l'angle de la rue Royale. Du haut en bas de la grande maison de jeu, les domestiques circulaient, secouaient les tapis, aérant les salons où flottait la buée des cigares, où des monceaux de cendres fines tout embrasées s'écoulaient au fond des cheminées, tandis que sur les tables vertes, encore frémissantes des parties de la nuit, brûlaient quelques flambeaux d'argent dont la flamme montait toute droite dans la lumière blafarde du grand jour. Le bruit, le va-et-vient, s'arrêtait au troisième étage, où quelques membres du cercle avaient leur appartement. De ce nombre était le marquis de Montpavon, chez qui Jenkins se rendait. « Comment, c'est vous, docteur ? Diable emporte, quelle heure est-il donc ? Je suis pas visible. » « Pas même pour le médecin ? Oh, pour personne ! Question de tenue, mon cher ! C'est égal, entrez tout de même. Chauffez-vous les pieds un moment pendant que Francis finit de me coiffer. » Jenkins pénétra dans la chambre à coucher, banale comme tous les garnis, et s'approcha du feu sur lequel chauffaient des fers à friser de toutes les dimensions, tandis que dans le laboratoire à côté, séparé de la chambre par une tenture algérienne, le marquis de Montpavon s'abandonnait aux manipulations de son valet de chambre. Des odeurs de patchouli, de cold cream, de cornes et de poils brûlés s'échappaient de l'espace restreint. Et de temps en temps, quand Francis venait retirer un fer, Jenkins entrevoyait une immense toilette chargée de 1000 petits instruments d'ivoire, de nacre et d'acier, limes, ciseaux, houppes et brosses, de flacons, de godets, de cosmétiques, étiquetés, rangés, alignés, et parmi tout cet étalage, maladroite et déjà tremblante, une main de vieillard, sèche et longue, soignée aux ongles comme celle d'un peintre japonais, qui hésitait au milieu de ses quincailleries menues et de ses faïences de poupées. Tout en arrangeant son visage, la plus longue, la plus compliquée de ses occupations du matin, Montpavon causait avec le docteur, racontait ses malaises, le bon effet des perles qui le rajeunissaient, disait-il. Et de loin ainsi, sans le voir, on aurait cru entendre le duc du Morat, tellement il lui avait pris ses façons de parler. C'étaient les mêmes phrases inachevées, terminé en ps, 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 du bout des dents, des machins, des choses, intercalés à tout propos dans le discours, une sorte de bredouillement aristocratique, fatigué, paresseux, où se sentait un mépris profond pour l'art vulgaire de la parole. Dans l'entourage du duc, tout le monde cherchait à imiter cet accent, ces intonations dédaigneuses avec une affectation de simplicité. Jenkins, trouvant la séance un peu longue, s'était levé pour partir. « Adieu, je m'en vais. On vous verra chez le nabab ?»« Oui, je compte y déjeuner. Promis de lui amener chose, machin, comment donc ?»« Vous savez, pour notre grosse affaire. Pss, pss, pss. Sans quoi, dispenserait bien d'y aller. Vraie ménagerie, cette maison-là. » L'Irlandais, malgré sa bienveillance, convint que la société était un peu mêlée chez son ami. Mais quoi, il ne fallait pas lui en vouloir. Il ne savait pas, ce pauvre homme. « Sait pas et veut pas apprendre, » fit Montpavon avec aigreur. « Au lieu de consulter les gens d'expérience, pss, 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 première écornifleur venue. Avez-vous vu chevaux que Boileri lui a fait acheter ? De la roustissure, ces bêtes-là. Et il les a payés 20 000 francs. Parions que Boileri les a eus pour 6 000. Oh, fit donc, un gentilhomme, » dit Jenkins avec l'indignation d'une belle âme, se refusant à croire au mal. Montpavon continua sans avoir l'air d'entendre. Tout ça parce que les chevaux sortaient de l'écurie de Morat. C'est vrai que le duc lui tient au cœur à ce cher nabab. Aussi je vais le rendre bien heureux en lui apprenant... Le docteur s'arrêta, embarrassé. En lui apprenant quoi, Jenkins ? Assez penaud, Jenkins dut avouer qu'il avait obtenu de son Excellence la permission de lui présenter son ami Jean Soulet. À peine eut-il achevé sa phrase, qu'un long spectre, au visage flasque, aux cheveux, aux favoris multicolores, s'élança du cabinet dans la chambre, croisant de ses deux mains sur un cou décharné, mais très droit, un peignoir de soie claire à pois violets, dont il s'enveloppait comme un bonbon dans sa papillote. Ce que cette physionomie héroïque-comique avait de plus saillant, c'était un grand nez busqué tout luisant de cold cream, et un regard vif, aigu, trop jeune, trop clair pour la paupière lourde et plissée qui le recouvrait. Les malades de Jenkins avaient tous ce regard-là. Vraiment, il fallait que Montpavon fût bien ému pour se montrer ainsi dépourvu de tout prestige. En effet, les lèvres blanches, la voix changée, il s'adressa au docteur vivement, sans éseiller cette fois, et tout d'un trait. « Ah ça, mon cher, pas de farce entre nous, n'est-ce pas ? Nous nous sommes rencontrés tous les deux devant la même écuelle, mais j'entends que vous me laissiez la mienne. » Et l'air étonné de Jenkins ne l'arrêta pas. « Que ceci soit dit une fois pour toutes, j'ai promis au nabab de le présenter au duc, ainsi que je vous ai présenté jadis. Ne vous mêlez donc pas de ce qui me regarde seul. » Jenkins mit la main sur son cœur, protesta de son innocence. Il n'avait jamais eu l'intention. Certainement, Montpavon était trop l'ami du duc pour qu'un autre. Comment avait-il pu supposer ? « Je ne suppose rien, » dit le vieux gentilhomme, plus calme mais toujours froid. « J'ai voulu seulement avoir une explication très nette avec vous à ce sujet. » L'Irlandais lui tendit sa main large ouverte. « Mon cher marquis, les explications sont toujours nettes entre gens d'honneur. »« D'honneur est un grand mot, Jenkins. Disons, gens de tenue, cela suffit. » Et cette tenue, qu'il invoquait comme suprême frein de conduite, le rappelant tout à coup au sentiment de sa comique situation, le marquis offrit un doigt à la poignée de main démonstrative de son ami et repassa dignement derrière son rideau pendant que l'autre s'en allait, pressé de reprendre sa tournée. Quelle magnifique clientèle il avait, ce Jenkins! Rien que des hôtels princiers, des escaliers chauffés chargés de fleurs à tous les étages, des alcôves capitonnées et soyeuses où la maladie se faisait discrète, élégante, où rien ne sentait cette main brutale qui jette sur un lit de misère ceux qui ne cessent de travailler que pour mourir. Ce n'était pas à vrai dire des malades, ces clients du docteur irlandais. On n'en aurait pas voulu dans un hospice. Leurs organes n'ayant pas même la force d'une secousse, le siège de leur mal ne se trouvait nulle part, et le médecin penché sur eux aurait cherché en vain la palpitation d'une souffrance dans ces corps que l'inertie, le silence de la mort, habitait déjà. C'étaient des épuisés, des exténués, des anémiques brûlés par une vie absurde, mais la trouvant si bonne encore qu'ils s'acharnaient à la prolonger. Et les perles Jenkins devenaient fameuses justement pour ce coup de fouet donné aux existences surmenées. « Docteur, je vous en conjure, que j'aille au bal ce soir !» disait la jeune femme anéantie sur sa chaise longue et dont la voix n'était plus qu'un souffle. « Vous irez, ma chère enfant. » Et elle y allait, et jamais elle n'avait été plus belle. « Docteur, à tout prix dû ces gens mourir, il faut que demain matin je sois au conseil des ministres. » Il y était, et il en rapportait un triomphe d'éloquence et de diplomatie ambitieuse. Après, oh, après par exemple, mais qu'importe. Jusqu'au dernier jour, les clients de Jenkins circulaient, se montraient, trompaient l'égoïsme dévorant de la foule. Ils mouraient debout, en gens du monde. Après 1000 détours dans la chaussée d'Antin, les Champs-Élysées, après avoir visité tout ce qu'il y avait de millionnaires ou de titrés dans le faubourg Saint-Honoré, le médecin à la mode arriva à l'angle du cours La Reine et de la rue François Ier, devant une façade arrondie qui tenait le coin du quai, et pénétra au rez-de-chaussée dans un intérieur qui ne ressemblait en rien à ceux qu'il traversait depuis le matin. Dès l'entrée, des tapisseries, couvrant les murs, de vieux vitraux coupant des lanières de plomb un jour discret et mélangé, un saint gigantesque en bois sculpté qui faisait face à un monstre japonais aux yeux saillants, au dos couvert d'écailles finement tuilées, indiquait le goût imaginatif et curieux d'un artiste. Le petit domestique qui vint ouvrir tenait en laisse un lévrier arabe plus grand que lui. « Madame Constance est à la messe, dit-il, et mademoiselle est dans l'atelier toute seule. Nous travaillons depuis 6 heures du matin, » ajouta l'enfant avec un bâillement lamentable, que le chien attrapa au vol et qui lui fit ouvrir toute grande sa gueule rose aux dents aiguës. Jenkins, que nous avons vu entrer si tranquillement dans la chambre du ministre d'État, tremblait un peu en soulevant la tenture qui masquait la porte de l'atelier restée ouverte. C'était un superbe atelier de sculpture, dont la façade en coin arrondissait tout un côté vitré, bordé de pilastres, une large baie lumineuse opalisée en ce moment par le brouillard. Plus ornées que ne le sont d'ordinaire ces pièces de travail, que les souillures du plâtre, les ébauchoirs, la terre glaise, les flaques d'eau font ressembler à des chantiers de maçonnerie, celle-ci ajoutait un peu de coquetterie à sa destination artistique. Des plantes vertes dans tous les coins, quelques bons tableaux accrochés aux murs nus, et, çà et là, portés par des consoles en chêne, deux ou trois œuvres de Sébastien Ruys, dont la dernière, exposée après sa mort, était couverte d'une gaze noire. La maîtresse de la maison, Félicia Ruys, la fille du célèbre sculpteur, connue déjà elle-même par deux chefs-d'œuvre, le buste de son père et celui du duc de Morat, se tenait au milieu de l'atelier en train de modeler une figure. Serrée dans une amazone de drap bleu à longs plis, un fichu de chine roulé autour de son cou comme une cravate de garçon, ses cheveux noirs groupés sans apprêt sur la forme antique de sa petite tête, Félicia travaillait avec une ardeur extrême qui ajoutait à sa beauté la condensation, le resserrement de tous les traits d'une expression attentive et satisfaite. Mais cela changea tout de suite à l'arrivée du docteur. « Ah, c'est vous !» dit-elle brusquement, comme éveillée d'un rêve. « On a donc sonné ? Je n'avais pas entendu. » Et dans l'ennui, la lassitude répandue subitement sur cet adorable visage, il ne resta plus d'expressif et de brillant que les yeux, des yeux où l'éclat factice des perles Jenkins s'avivait d'une sauvagerie de nature. Oh, comme la voix du docteur se fit humble et condescendante en lui répondant. « Votre travail vous absorbe donc bien, ma chère Félicia. C'est nouveau ce que vous faites là ? Cela me paraît très joli. » Il s'approcha de l'ébauche encore informe, d'où sortait vaguement un groupe de deux animaux, dont un lévrier qui détalait à fond de train avec une lancée vraiment extraordinaire. « L'idée m'en est venue cette nuit. J'ai commencé à travailler à la lampe. C'est mon pauvre Cadour qui ne s'amuse pas, » dit la jeune fille en regardant d'un air de bonté caressante le lévrier à qui le petit domestique ennuyait d'écarter les pattes pour les remettre à la pose. Jenkins remarqua paternellement qu'elle avait tort de se fatiguer ainsi et lui prenant le poignet avec des précautions ecclésiastiques. « Voyons, je suis sûre que vous avez la fièvre. » Au contact de cette main sur la sienne, Félicia eut un mouvement presque répulsif. « Laissez, laissez, vos perles n'y peuvent rien. Quand je ne travaille pas, je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir, je m'ennuie à tuer. Mes idées sont de la couleur de cette eau qui coule là-bas, saumâtre et lourde. Commencer la vie et en avoir le dégoût, c'est dur. J'en suis réduite à envier ma pauvre Constance, qui passe ses journées sur sa chaise, sans ouvrir la bouche, mais en souriant toute seule au passé dont elle se souvient. Je n'ai pas même cela, moi, de bons souvenirs à ruminer. Je n'ai que le travail, le travail. » Tout en parlant, elle modelait furieusement, tantôt avec l'ébauchoir, tantôt avec ses doigts, qu'elle essuyait de temps en temps à une petite éponge posée sur la selle de bois soutenant le groupe, de telle sorte que ses plaintes, ses tristesses, inexplicables dans une bouche de 20 ans et qui avait au repos la pureté d'un sourire grec, semblaient proférées au hasard et ne s'adressèrent à personne. Pourtant Jenkins en paraissait inquiet, troublé, malgré l'attention évidente qu'il prêtait à l'ouvrage de l'artiste, ou plutôt à l'artiste elle-même, à la grâce triomphante de cette fille que sa beauté semblait avoir prédestinée à l'étude des arts plastiques. Gênée par ce regard admiratif qu'elle sentait poser sur elle, Félicia reprit. « À propos, vous savez que je l'ai vue, votre nabab. On me l'a montré vendredi dernier à l'opéra. » « Vous étiez à l'opéra vendredi ?»« Oui, le duc m'avait envoyé sa loge. » Jenkins changea de couleur. « J'ai décidé Constance à m'accompagner. C'était la première fois depuis 25 ans, depuis sa représentation d'adieu, qu'elle entrait à l'opéra. Ça lui a fait un effet. Pendant le ballet, surtout, elle tremblait, elle rayonnait, tous ses anciens triomphes pétillaient dans ses yeux. Est-on heureux d'avoir des émotions pareilles ? Un vrai type, ce nabab. Il faudra que vous me l'ameniez. C'est une tête qui m'amuserait à faire. » « Lui ? Mais il est affreux ! Vous ne l'avez pas bien regardé ?»« Parfaitement, au contraire. Il était en face de nous. Ce masque d'Éthiopien blanc serait superbe en marbre. Et pas banal, au moins, celui-là. D'ailleurs, puisqu'il est si laid que ça, vous ne serez pas aussi malheureux que l'an dernier quand je faisais le buste de Mora. Quelle mauvaise figure vous aviez, Jenkins, à cette époque !»« Pour 10 années d'existence, murmura Jenkins d'une voix sombre, je ne voudrais recommencer ces moments-là. » « Mais cela vous amuse, vous, de voir souffrir. »« Vous savez bien que rien ne m'amuse, » dit-elle en haussant les épaules, avec une impertinence suprême. Puis, sans le regarder, sans ajouter une parole, elle s'enfonça dans une de ces activités muettes par lesquelles les vrais artistes échappent à eux-mêmes et à tout ce qui les entoure. Jenkins fit quelques pas dans l'atelier, très ému, la lèvre gonflée d'aveux qui n'osait pas sortir, commença 2 ou 3 phrases demeurées sans réponse, enfin, se sentant congédié, il prit son chapeau et marcha vers la porte. « Ainsi, c'est entendu, il faut vous l'amener. »« Qui donc ?»« Mais le nabab, c'est vous qui, à l'instant même. »« Ah, oui !» fit l'étrange personne, dont les caprices ne duraient pas longtemps. « Amenez-le, si vous voulez, je n'y tiens pas autrement. » Et sa belle voix morne, où quelque chose semblait brisé, l'abandon de tout son être disait bien que c'était vrai, qu'elle ne tenait à rien au monde. Jenkins sortit de là très troublé, le front assombri. Mais sitôt dehors, il reprit sa physionomie riante et cordiale, étant de ceux qui vont masquer dans les rues. La matinée s'avançait. La brume, encore visible aux abords de la Seine, ne flottait plus que par lambeaux et donnait une légèreté vaporeuse aux maisons du quai, aux bateaux dont on ne voyait pas les roues, à l'horizon lointain dans lequel le dôme des Invalides planait comme un aérostat doré, dont le filet aurait secoué des rayons. Une tiédeur répandue, le mouvement du quartier, disait que midi n'était pas loin, qu'il sonnerait bientôt au battant de toutes les cloches. Avant d'aller chez le nabab, Jenkins avait pourtant une autre visite à faire, mais celle-là paraissait l'ennuyer beaucoup, enfin, puisqu'il l'avait promis, et résolument. « 68 rue Saint-Ferdinand, au Terne, » dit-il en sautant dans sa voiture. Le cocher Joey, scandalisé, se fit répéter l'adresse 2 fois. Le cheval lui-même eut une petite hésitation, comme si la bête de prix, la fraîche livrée, se fût révoltée à l'idée d'une course dans un faubourg aussi lointain, en dehors du cercle restreint mais si brillant, où se groupait la clientèle de leur maître. On arriva tout de même sans encombre au bout d'une rue provinciale, inachevée, et à la dernière de ces bâtisses, un immeuble à 5 étages, que la rue semblait avoir envoyé en reconnaissance pour savoir si elle pouvait continuer de ce côté, isolé qu'il était entre des terrains vagues attendant des constructions prochaines ou remplis de matériaux de démolition, avec des pierres de taille, de vieilles persiennes posées sur le vide, des ais moisis dont les ferrures pendaient, immense ossuaire de tout un quartier abattu. D'innombrables écriteaux se balançaient au-dessus de la porte décorée d'un grand cadre de photographie, blanc de poussière, auprès duquel Jenkins resta un moment en arrêt. L'illustre médecin était-il donc venu si loin pour se faire faire un portrait-carte ? On aurait pu le croire, à l'attention qui le retenait devant cet étalage, dont les 15 ou 20 photographies représentaient la même famille en des allures, des poses et des expressions différentes. Un vieux monsieur, le menton soutenu par une haute cravate blanche, une serviette de cuir sous le bras, entouré d'une nichée de jeunes filles coiffées en nattes ou en boucles, de modestes ornements sur leur robe noire. Quelquefois, le vieux monsieur n'avait posé qu'avec 2 de ses fillettes, ou bien une de ces jeunes et jolies silhouettes se dessinait solitaire, le coude sur une colonne tronquée, la tête penchée sur un livre, dans une pose naturelle et abandonnée. Mais en somme, c'était toujours le même motif, avec des variantes, et il n'y avait pas dans la vitrine d'autre monsieur que le vieux monsieur à cravate blanche, pas d'autre figure féminine que celle de ses nombreuses filles. Les ateliers dans la maison, au cinquième, disait une ligne dominant le cadre. Jenkins soupira, mesura de l'œil la distance qui séparait le sol du petit balcon là-haut, près des nuages, puis il se décida à entrer. Dans le couloir, il se croisa avec une cravate blanche et une majestueuse serviette en cuir. Évidemment, le vieux monsieur de l'étalage. Interrogé, celui-ci répondit que M. Marran habitait en effet le cinquième. « Mais, ajouta-t-il avec un sourire engageant, les étages ne sont pas hauts. » Sur cet encouragement, l'Irlandais se mit à monter un escalier étroit et tout neuf, avec des paliers pas plus grands qu'une marche, une seule porte par étage, et des fenêtres coupées qui laissaient voir une cour au pavé triste et d'autres cages d'escalier toutes vides. Une de ces affreuses maisons modernes, bâties à la douzaine par des entrepreneurs sans le sou, et dont le plus grand inconvénient consiste en des cloisons minces qui font vivre tous les habitants dans une communauté de phalanstères. En ce moment, l'incommodité n'était pas grande, le quatrième et le cinquième étage se trouvant seuls occupés, comme si les locataires y étaient tombés du ciel. Au quatrième, derrière une porte dont la plaque en cuivre annonçait « Monsieur Joyeuse, expert en écriture », le docteur entendit un bruit de rire frais, de jeunes bavardages, de pas étourdis qui l'accompagnèrent jusqu'au-dessus, jusqu'à l'établissement photographique. C'est une des surprises de Paris que ces petites industries perchées dans des coins et qui ont l'air de n'avoir aucune communication avec le dehors. On se demande comment vivent les gens qui s'installent dans ces métiers-là. Quelle providence méticuleuse peut envoyer par exemple des clients à un photographe logé au cinquième dans des terrains vagues tout en haut de la rue Saint-Ferdinand ou des écritures à tenir au comptable du dessous. Jenkins, en se faisant cette réflexion, sourit de pitié, puis entra tout droit comme l'y invitait l'inscription suivante, « Entrez sans frapper ». Hélas, on n'abusait guère de la permission. Un grand garçon à lunettes en train d'écrire sur une petite table, les jambes entortillées d'une couverture de voyage, se leva précipitamment pour venir au-devant du visiteur, que sa myopie l'avait empêché de reconnaître. « Bonjour André !» dit le docteur, tendant sa main loyale. « Monsieur Jenkins !»« Tu vois, je suis bon enfant comme toujours. Ta conduite envers nous, ton obstination à vivre loin de tes parents, commandait à ma dignité une grande réserve, mais ta mère a pleuré, et me voilà. » Il regardait, tout en parlant, ce pauvre petit atelier, dont les murs nus, les meubles rares, l'appareil photographique tout neuf, la petite cheminée à la prussienne, neuve aussi, et n'ayant jamais vu le feu, s'éclairait désastreusement sous la lumière droite qui tombait du toit de verre. La mine tirée, la barbe grêle du jeune homme, à qui la couleur claire de ses yeux, la hauteur étroite de son front, ses cheveux longs et blonds rejetés en arrière, donnaient l'air d'un illuminé, tout s'accentuait dans le jour cru, et aussi l'âpre vouloir de ce regard limpide qui fixait Jenkins froidement et d'avance opposait à toutes ses raisons, à toutes ses protestations, une invincible résistance. Mais le bon Jenkins feignait de ne pas s'en apercevoir. « Tu le sais, mon cher André, du jour où j'ai épousé ta mère, je t'ai regardé comme mon fils. Je comptais te laisser mon cabinet, ma clientèle, te mettre le pied dans un étrier doré, heureux de te voir suivre une carrière consacrée au bien de l'humanité. Tout à coup, sans dire pourquoi, sans te préoccuper de l'effet qu'une pareille rupture pourrait avoir aux yeux du monde, tu t'es écarté de nous. » Tu as laissé là tes études, renoncé à ton avenir pour te lancer dans je ne sais quelle vie dégoûtée, entreprendre un métier ridicule, le refuge et le prétexte de tous les déclassés. Je fais ce métier pour vivre, c'est un gagne-pain en attendant. En attendant quoi? La gloire littéraire? Il regardait dédaigneusement le griffonnage épars sur la table. Mais tout cela n'est pas sérieux, et voici ce que je viens de te dire. Une occasion s'offre à toi. Une porte à deux battants ouverte sur l'avenir. L'œuvre de Bethléem est fondée, le plus beau de mes rêves humanitaires a pris corps. Nous venons d'acheter une superbe villa à Nanterre pour installer notre premier établissement. C'est la direction, c'est la surveillance de cette maison que j'ai songé à te confier, comme à un autre moi-même. Une habitation princière, des appointements de chef de division et la satisfaction d'un service rendu à la grande famille humaine. Dis un mot et je t'emmène chez le nabab, chez l'homme au grand cœur qui fait les frais de notre entreprise. Acceptes-tu ? Non. Dit l'autre, si sèchement que Jenkins en fut décontenancé. « C'est bien cela. Je m'attendais à ce refus en venant ici. Mais je suis venu quand même. J'ai pris pour devise « faire le bien sans espérance ». Et je reste fidèle à ma devise. Ainsi c'est entendu. Tu préfères à l'existence honorable, digne, fructueuse que je viens de te proposer, une vie de hasard, sans issue et sans dignité. » André ne répondit rien, mais son silence parlait pour lui. « Prends garde. Tu sais ce qu'entraînera cette décision. Un éloignement définitif. Mais tu l'as toujours désiré. Je n'ai pas besoin de te le dire, continua Jenkins, que briser avec moi c'est rompre aussi avec ta mère. Elle et moi ne faisons qu'un. » Le jeune homme pâlit, hésita une seconde, puis dit avec effort. « S'il plaît à ma mère de venir me voir ici, j'en serais certes bien heureux, mais ma résolution de sortir de chez vous, de n'avoir plus rien de commun avec vous, est irrévocable. » « Et, au moins, diras-tu pourquoi ?» Il fit signe que non, qu'il ne le dirait pas. Pour le coup, l'Irlandais eut un vrai mouvement de colère. Toute sa figure prit une expression sournoise, farouche, qui aurait bien étonné ceux qui ne connaissaient que le bon et loyal Jenkins. Mais il se garda bien d'aller plus loin dans une explication qu'il craignait peut-être autant qu'il la désirait. « Adieu, » fit-il du seuil en retournant à demi la tête, « et ne vous adressez jamais à nous !»« Jamais, » répondit son beau-fils d'une voix ferme. Cette fois, quand le docteur eut dit à Joey « Place Vendôme », le cheval, comme s'il avait compris qu'on allait chez le nabab, agita fièrement ses gourmettes étincelantes et le coupé partit à fond de train, transformant en soleil chaque essieu de ses roues. Venir si loin pour chercher une réception pareille, une célébrité du temps traitée ainsi par ce bohème, essayez donc de faire le bien. Jenkins écoula sa colère dans un long monologue de ce genre, puis, tout à coup se secouant, « Oh bah !» Et ce qui restait de soucieux à son front se dissipa vite sur le trottoir de la place Vendôme. Midi sonnait partout dans le soleil. Sorti de son rideau de brume, Paris luxueux, réveillé et debout, commençait sa journée tourbillonnante. Les vitrines de la rue de la Paix resplendissaient. Les hôtels de la place paraissaient s'aligner fièrement pour les réceptions d'après-midi. Et tout au bout de la rue Castiglione aux blanches arcades, les Tuileries, sous un beau rayon d'hiver, dressaient des statues grelottantes, roses de froid, dans le dénuement des quinconces.